Donc on y va. Bon, Nilton, c'est quoi? C'est derby? Classico? 4-1?
Le derby.
Le derby. Ouais. Bon, allez, on y va. On est le dimanche 18 mars 2018. 1, 2, 3, here we go.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le Cannes Football Club, la poutine du soccer.
Bonjour, bonsoir et bon après-midi. Bienvenue à la plateforme audiophonique podcastique du Cannes Football Club. Bienvenue à l'édition CCPP du podcast Cannes FC en ce 18 mars 2018. Là, on va passer sur l'après-match entre l'Impact de Montréal et le Toronto FC. Une victoire 1-0 du bleu-blanc-noir face aux méchants Reds de l'Ontario. Comme d'habitude, Sofiane avec vous et mon compadre des Açores, Monsieur Nilton George. Comment ça va, George?
Compadre Sofiane, ça va toi?
Ça va très bien, mon ami, très bien. Donc, bienvenue, évidemment, votre duo le plus ethnique, le plus foot, le plus multiculturel du Québec est ici. Et c'est merci encore d'être avec nous en ce beau dimanche à moins 15.
On a caché toutes les cases, là. On les a,
c'est bon. On va avoir des fonds des médias canadiens.
Donc,
patrimoine, héritage, mais elle est jolie, elle va nous envoyer un chèque. On est content, merci beaucoup. Donc voilà, merci de tous d'être avec nous. Si vous écoutez, vous êtes sur soundcloud.com/CannesFootballClub, vous êtes sur iTunes, cherchez Cannes Football Club Plus, et évidemment sur Spreaker, faites une recherche sur Cannes Football Club. Je suis sur Sofiane Benzaza sur Twitter, et évidemment Nilton George, c'est @NiltonGeorge, NiltonGeorge. Donc voilà, merci beaucoup. Et si votre question sont répondues en ce moment, c'est que vous avez utilisé le hashtag CCPP pour Couscous Piri Piri. Nilton, l'Impact,
yep.
1-0, victoire, Stade Olympique, 26 000 personnes et quelques, au Bigo. Vargas qui marque à la 41e. La vie est belle.
Ben oui, tout était prévu. Hein? C'est un scénario idéal. Hein? On voulait finalement débuter la saison avec ces trois points-là. Ils sont venus. Une surprise, hein, on va dire la vérité, hein. C'était pas
acquis nécessairement, mais
les circonstances. C'était loin d'être acquis.
Mais les circonstances de Toronto FC, les matchs de Ligue des Champions, les blessés, les absents et la méforme relative peut expliquer des choses, mais n'explique pas tout.
Mais en même temps, nous aussi, on avait des circonstances atténuantes pour aller chercher ces trois points-là, hein. Nous aussi, hein. On a un 11 partant, assez inédit. La formation l'est tout autant. Des joueurs plus ou moins en forme. On n'avait pas vraiment d'attaquant de pointe. Et, à ce compte-là, nous aussi, on était dans des situations non plus loin de l'idéal, là, mettons.
Du moins que si les fans du TFC et les médias du TFC qui couvrent le TFC s'attendaient à une certaine performance plus ou moins correcte, c'est clair que les observateurs de l'Impact et les fans ne s'attendaient pas à une formation aussi Football Manager, disons, hein, référence à Alec. Ouais. Hein, donc on va commencer par les alignements. Le Toronto FC avec le classique 3-5-2, Zavaleta, Moore, Haglund en défense, Morgan, Osorio, Bradley, Aketse et Vanderville au milieu de terrain. Évidemment, Vanderville et Morgan sont les latéraux ailiers. Altidore, Jovico en pointe. Du côté de l'Impact, on parle d'un 5-3-2 ou un 3-5-2.
Beaucoup plus un 5-3-2 qu'un 3-5-2.
Ça, c'est clair. Avec Petrasio, Cabrera, Fanny, Raitala, Lovitz, Kroliki, Piet et Safir Taider. Et Jason.
C'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça, Safian?
Non, je viens de l'inventer.
Safir Taider.
Safir Taider. Non, je viens de l'inventer. Il ne faut pas utiliser cet accent, je vous l'interdis. Donc, et en pointe, Jason Santiago Vargas. Et en,
oh boy.
À côté de lui, ben, il est né à Santiago. Et,
ok.
C'est ça. qui est la capitale du Chili. Et Ignacio Nacho Piatti en pointe aussi avec Vargas. On note l'absence de Mancuso Hmm. Il n'était pas sur le banc. Est-ce qu'il s'en va de l'Impact? Est-ce qu'il était blessé?
On le saura dans les... Je sais pas. Est-ce qu'on a deux semaines là, de rumeurs à la con là, qui s'en viennent. Ça va être fun.
Les rumeurs à la con. Nilton, je les adore. J'adore quand tu traduis des articles d'ailleurs et que les gens disent que tu les inventes. J'adore ça.
Allez. On parle du match.
On parle du match. Bon. On va commencer par les évaluations, on va commencer par les nôtres, ensuite on va lire quelques-unes du public. Encore une fois, merci à tout le monde d'avoir évalué sur Twitter en utilisant les hashtags #StapoutouDor, #TroPoutine et évidemment #JardinFoin. Les deux, ou je ne sais pas, au moins
Saputo. Les trois
ont trendé sur Twitter durant le match et après le match, donc merci beaucoup.
Malgré le retour de Plekanec.
Malgré le col roulé, malgré. On a le Cannes FC, le Cannes Football Club a surpassé le col roulé turtleneck de Tomáš Plekanec. Donc, merci beaucoup d'avoir aidé à rendre tendance les hashtags populaires du Cannes FC. Votre rendez-vous virtuel pour évaluer les joueurs, le seul rendez-vous qui vaut la peine. Et bien sûr, et n'oubliez pas aussi de suivre Sydney @solambe, SOLAMBEY, pour remplir la forme Google du Cannes FC, pour aussi donner vos Saputo d'or de façon écrite et aussi les notes des joueurs et les notes du coach. Sautons Saputo d'or pour le match, monsieur Georges.
Ouais, il y a plusieurs joueurs qui le méritent. Hein.
Tout le monde le mérite. Tout.
Presque.
Même Odoro.
Mais. Ouais, parce qu'il est gentil, il fait pas trop de bruit malgré les circonstances. Non, mais pour être un peu plus sérieux, le début de saison général en plus, puis hier c'est encore plus paru. Victor Cabrera est un joueur métamorphosé cette saison. Il court, il a l'énergie de la première à la 90e minute. Ses décisions sont pas toujours 100% approve, mais ils sont pas loin. Et puis, dans un système comme ça, avec 5 défenseurs, il peut se permettre encore plus les prises de risques. Mais hier, il n'y a pas eu beaucoup de prises de risques qui n'ont pas valu la peine. Il a été vraiment un général derrière, beaucoup plus que Fanny, même s'il a bien paru. Et à tel point que vers la fin du match, Josie Altidore s'est décollé du côté gauche. Il est allé vers le côté droit de Toronto, donc sur le côté de Raitala, parce que il en gagnait pas beaucoup de duels. Là. Puis franchement, Victor, il a peut-être senti un peu la concurrence qui s'en vient, mais il est loin de perdre son poste avec tous ses défenseurs centraux qui pourraient éventuellement être en forme tous en même temps. Là. Pour moi, le Saputo d'or hier. Si on a un zéro là, dans la fiche des buts contre. On lui doit beaucoup, 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 beaucoup à Victor.
Oui, c'est vrai. Mais je pense que sur les hashtags d'évaluation, sur Twitter, Fanny est émotionné, Cabrera, moi, même
Vargas. Il y en avait plusieurs.
Même Vargas qui avait joué son meilleur match, il n'a pas beaucoup joué aussi depuis Las Vegas. Et puis,
dans un rôle un peu ingrat, hein, parce que c'est pas évident. Moi, personnellement, les matchs au Stade Olympique, j'ai beaucoup de misère à.
J'ai du mal, moi aussi.
Juger la qualité d'un match.
Le ballon rebondit comme une balle de ping-pong. C'est le contrôle est dur. C'est très difficile.
Exact. Puis, bon, c'est sûr que les stats ne disent pas tout. Là, juste sortir les stats sans voir le match, c'est un peu idiot. Mais sortir les stats en voyant le match, là, tu peux l'apprécier un peu plus. Le jeu, là. T'sais, pourtant, il n'y a pas le physique de l'emploi, mais son rôle de point d'appui, une fois que le ballon était possible pour lui de jouer, il l'a fait à la perfection. T'sais, oui, il faisait des passes beaucoup en retrait, mais c'était dans son rôle. Une fois que la relance était faite par les défenseurs, ballon au pied à Jason, il savait la distribuer de façon correctement pour relancer en bloc une contre-attaque. T'sais, oui, avoir Lovitz, ou avoir Petrasso qui sente des ballons vers lui, c'est inutile. On s'entend. Ouais. Il va les perdre. C'est pas grave. À la limite, tu gagnes un deuxième. T'sais, un centre raté, dégagé, ça ne veut pas dire que Toronto a la possession du ballon tout de suite après ça. C'est un dégagement. On peut récupérer un ballon en haut de la surface et tout ça. Mais Vargas a fait un gros travail, un peu ingrat. Il a été chanceux parce que c'est quand même un ballon qui a été dévié, son but. Hein, faut pas, faut
oui,
pas
non plus. Et Bono n'allait pas se faire avoir par un tir si t'es pas délié. Bon,
ça, peut-être, on le sait pas.
Non, mais Hilton, bon. J'en suis sûr à 100%. Arrête.
Bon. OK. mais franchement, là, Vargas a beaucoup contribué, même en oubliant le but, il a beaucoup contribué au succès collectif de l'Impact de Montréal.
Non, c'est vrai, parce que je pense que les attentes du staff et des observateurs, incluant moi et toi et moi, c'est que je ne m'attendais pas qu'à ce que Vargas joue le jeu du duel aérien avec Moore et avec Haglund et compagnie. Ce n'était pas son rôle. Et puis, comme il peut décracher rapidement, puis il est assez vif, il faut soit on décide de le suivre, soit on le laisse l'espace et ça donne du temps pour distribuer les ballons, comme tu as dit, faire les passes entrées, etc.
Donc, Rémi Garde l'a dit, son jeu, c'était de les mettre mal à l'aise une fois le ballon dans le dos de la défensive. Et dans ce rôle-là, là, Vargas peut être dangereux.
Exactement. Et puis, il est vif, puis il aime aller provoquer du 1 contre 1. Donc, voilà, c'est un ailier qui a été reconverti dans l'axe pour jouer à la pointe. Voilà, son identité est très loin d'être... cadré au sein du club. Je pense qu'il faut donner plusieurs matchs et plusieurs dispositifs pour voir quelle combinaison marche, mais après on verra. Moi, mon simple tout d'or, je le donnais à Piet. J'ai beaucoup aimé son travail.
Ah oui.
C'est enfin le milieu défensif qu'on attendait depuis 2012. L'Impact l'a enfin eu.
C'est pas anodin la date, hein. C'est 2012.
Ça fait juste 6 ans. Ça fait juste 6 ans qu'on attend un milieu de terrain défensif bulldog qui a une relance intéressante. Oui, il fait quelques passes un peu, pas nécessairement parfaites.
Ouais, mais de mieux en mieux.
De mieux en mieux, mais c'est pas Xabi Alonso. J'espère qu'il arrive au style de Xabi Alonso, pourquoi pas. Mais en termes défensifs, en termes de bulldog, en termes d'impact physique, d'anticipation, sur le but de Vargas, il anticipe la passe molle de Vanderbilt. Bradley le voyait venir, mais c'est trop tard parce que la passe de Vanderbilt était trop molle. Passe à Piatti. Non. Piatti fait sa magie et Vargas.
Bradley a rêvé à Piet là, cette nuit. Là. C'est automatique. Il l'a tellement poussé pendant le match parce qu'il était tanné de l'avoir dans les jambes. Il a reculé au maximum près de ses défenseurs pour être un peu plus tranquille. Mais Piet avait les jambes pour aller le provoquer, d'aller le presser dans sa zone puis de revenir.
Tout à fait.
C'était un méga match de sa nuit.
Puis il a fait la même chose que Jovinko. Il a vraiment dérangé. Les deux se sont dérangés. Et puis, ça, c'est clair. Bon match, gros match de Piet. Du côté du Tropotin, moi, personnellement, par défaut, quoi, c'est qui? C'est peut-être Kroliki.
Ouais.
Peut-être un peu Petrasso. Non, Petrasso, non, j'ai bien aimé. Mais Kroliki, mais il n'y a pas vraiment de Tropotin, honnêtement. Genre, j'ai vraiment du mal à dire à un joueur, toi, t'es... Ben, c'était qui le Tropotin?
Les latéraux dans ce match-là ont pas pu s'exprimer correctement parce que c'était un travail de soutien aux défenseurs centraux.
Oui.
Et bon, une fois que tu sentes le ballon, il n'y avait pas d'option non plus. Donc, Lovitz et Petrasso, ils faisaient le boulot de support, c'est tout. Et Petrasso a sauvé une balle.
Oui.
Mais Kroliki, là, ça commence à paraître un peu.
Oui, c'est pas facile pour lui.
C'est ça, tu sais, c'est une recrue. Les joueurs de la MLS progressent. Là, c'est Toronto. Même si c'est un Toronto fatigué, ça reste les champions en titre. Ça commence à être beaucoup pour un jeune comme Kroliki. Il a presque pas touché au ballon, Kroliki.
Non, c'est vrai. Puis son rôle, c'est peut-être plus de défendre les zones. Regarde, c'est le fait qu'il soit là, c'est déjà incroyable. Donc, on va voir comment il va évoluer. Tu as suivi la compétition de Louis Boulanguette qui a fait sa rentrée en tant que remplaçant dans le match. On verra ce que ça va donner. Kroliki n'a pas été mauvais. Kroliki était juste le plus mauvais des 11 joueurs. Et encore, c'est subjectif. Exact. Puis, si Garde l'a mis, c'est qu'il était meilleur que Belangoyette et plus près physiquement, meilleur que Chaumi et meilleur que les autres joueurs sur le banc, quoique il n'avait pas beaucoup.
On le répète, voilà. Kroliki, quand il est sur le terrain, ben, il fait en sorte que c'est pas lui qui va te faire perdre le match. Puis c'est encore ça. Il a été assez bien, assez bon pour garder... Pour garder le fort.
Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Maintenant, du côté de Gérard Dinfoin, je note l'appel ou non-appel sur un pénalty pour Piatti, sur une faute de Haglund.
Ouais, on peut parler de cette séquence-là. C'est dur. Hein? Bon, encore une fois, au Stade Olympique, c'était impossible de le revoir. Ce matin, j'ai vu plusieurs reprises. Moi, mon observation sur cette action-là, j'essaie toujours de me mettre à la place de l'arbitre. Donc, l'arbitre, il y a le jeu devant lui, OK?
Mm-hmm.
Il voit les joueurs de dos. De dos, quand tu vois cette action-là, à la vitesse normale de match, c'est impossible. s'il n'y a pas déjà une mauvaise intention, entre guillemets, qu'il n'ait pas appelé un pénal. Quand ça se passe à cette vitesse-là, quand tu vois que Piatti fait un crochet, que le défenseur met la jambe oui. et qu'il tombe,
tout à fait.
Il est obligé de caler pénal, à moins qu'il se dise déjà dans sa tête, Piatti s'en va pour une faute. Oui. Et ça, ça me dérange. Si l'arbitre a déjà une idée préconçue de ce qui va se passer, s'il y a un problème. Cela dit, une fois qu'on voit toutes les reprises, l'action, de quand tu la vois face à face, là, on voit qu'il n'y a probablement pas pénal parce que Piatti, oui, a commencé à tomber avant même que le défenseur mette la jambe. Mais ça, là, je le vois. Ça, c'est une situation où le pénal aurait pu être refusé à la VAR. Mais pas par l'arbitre.
C'est ça, j'ai pas compris pourquoi, et j'ai pas fait la recherche, parce que vraiment, à chaque fois, j'oublie la règle. Est-ce que le VAR a dû intervenir, ou est-ce que le VAR, qui était Petrescu, je pense, le quatrième arbitre,
ouais.
l'arbitre vidéo, est-ce qu'il a juste ouais. dit, ben non, ça, le
c'est
VAR.
C'est pas évident.
C'est pas évident, bon, le VAR n'a pas besoin d'être impliqué, on la mange, je ne sais pas. Peut-être l'association des arbitres PRO de la MLS et de l'USL vont peut-être nous. Parler de ce cas de figure pour utiliser comme une explication et donner une leçon pédagogique aux fans, puis aux supporters et à tout le monde. Parce que je suis curieux de savoir le processus décisionnel commence quand, parce que j'avais posé la question l'an dernier, et puis j'avais posé la question, tu te rappelles, le fameux penalty ouais. contre Mancuso à Chicago, contre Chicago, où j'avais dit, c'était pas vraiment penalty, parce que Mancuso cherche la main, puis il plonge. Bon, on m'a dit que, sur Twitter, on m'a dit que j'étais fou, puis un hater, c'est pas grave. Avec les séries et menaces ratées, je pense que j'avais raison. Et puis surtout toi, Nilton aussi. Mais c'est juste pour dire que on m'avait dit, je pense que c'était Howard Webb qui avait répondu via la menace en me disant que le VAR n'a pas été utilisé parce que c'était pas une situation qui était valide ou on n'avait pas vu qu'il avait faute. Donc le VAR n'avait pas besoin d'être invoqué. En tout cas, on passe à autre chose. On va passer quelques évaluations du public. François-Dominique Laramé, son Saputo d'or, piète impérial comme la Gold Cup. Tropotine Petrasso, mais une légère quand même. Gérard Dinfoin, les rebonds de Super Bowl du ballon sur le ciment du stade olympique. Donc,
on a battu plusieurs Mexicains grâce à ça. C'est avec vrai. Le temps, là, c'est ces rebonds-là qui a tué quelques Mexicains. On va les prendre.
Sauf ceux de Club America. Ils étaient prêts. Donc, Daniel Deng, dans le coach, son Saputo d'or, Bush, clean sheet de 1-0, il a été maître de sa boîte. Finalement, Bats, on t'aime. Tropoutine, premier joker à vie, 1-0, où tu bats les champions et les refs en plus. Et son Gélard d'Infoin, notre milieu de mine TFC, qui l'eût cru, Tyler Piet. Notre milieu de mine TFC, attention. Je pense pas que l'Impact a nécessairement dominé TFC. Ils ont juste
fait jeu égal, au moins.
Ils ont juste mieux joué que Bernadello et Donadel. Donc, nos réguliers, Dominique Riccio, Domi Riccio, Saputo d'or, Rome Fanny, on a un général, point d'interrogation. Tropoutine, Tider, but raté. Comment oses-tu?
C'est vrai que ça en fait quelques-uns. On voit la petite différence avec Blérim.
Non, mais c'est vrai, c'est deux profils différents.
Blérim, il les met dedans.
Tout à fait. Tout à fait. Non, c'est clair que Blérim est beaucoup plus
dur. Il les met dedans. Blérim, dans les mêmes actions, a déjà deux buts là, cette saison.
Non, clairement. Puis il est déjà genre goal of the week, etc. Gélard Dinfoin, l'arbitrage, rendu là, c'est un pléonasme. Et enfin, François Aubin, Saputo d'or Vargas, Tropoutine, Bradley, qui chale, puis capable. Hashtag. Et puis son Gélard Dinfoin, le coup de pied dans le beurre de Cabrera, qui, au demeurant, a connu un fort match. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir répondu. Merci Pierre Maillot, Dr Foot, Adi Raphaël, Marco Tal, merci. Tout le monde qui ont aidé à trender sur les Twitter, puis les Twitter. Donc merci encore. Bon, Nilton, est-ce qu'on commence par les questions du public?
Oui, ça aussi, un gros merci. On en a des questions. Dès qu'on lance l'appel à tous, on est toujours bien servi en questions. Juste avec vos questions, on pourrait faire un bon 2 heures de show sur un poste quelconque, n'est-ce pas?
N'est-ce pas, dans une radio FM ou AM, pourquoi pas?
Bon, on va commencer une question avec différentes variantes là, qui est venue à l'appel après ce match-là, c'est la fameuse formation qu'on peut appeler soit un 3-5-2 ou ce que je pense être beaucoup plus un 5-3-2 dans ce cas-ci. Avec l'arrivée imminente de Camacho et de Silva, quel type de formation Garde va vouloir utiliser éventuellement? Est-ce qu'on va revenir encore une fois avec le 3-5-2 ou on retourne à un 4-3-3?
Ah, c'est une très bonne question, parce que je ne sais pas où est-ce que Silva va jouer. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il est vraiment, comme a dit Piatti, et Piatti avait dit que c'est un tider côté droit, donc on parle peut-être d'un 4-3-3, ou est-ce qu'il peut remplacer le poste d'Edwards ou de Petrasso dans un 4-3-3 classique? Dans un 3-5-2, dans un 3-5-2 pur et dur, ben, tu n'as pas beaucoup de place pour lui, sauf si tu le mets côté droit. Mais en tout cas, est-ce que c'est le troisième milieu de terrain qui va remplacer Kroliki? Ou est-ce que l'Impact va jouer sur la largeur avec 4 joueurs milieu de terrain, puis Silva va être côté droit? À gauche, j'espère que ce n'est pas Piatti. On trouve un autre milieu de terrain à gauche, puis devant, tu auras Piatti et Vargas, Piatti ou un autre attaquant. Et ça dépend. Moi, je trouve que Garde va mélanger les formations et les stratégies. Parce que voilà, puis ça dépend ce qu'il veut faire. S'il joue contre une équipe qui est trop forte, il va bloquer l'axe. Toronto, il fallait bloquer l'axe. Il a mis 3 grands gaillards qui ont fait le travail. Et puis avec Piet, ça fait 4. Donc je trouve que ça dépend de la saveur du match et du goût et de l'adversaire. Donc ça va changer régulièrement, je pense.
Mais une des premières choses que Garn nous a dit lors de sa présentation, puis qu'on posait des questions sur ses formations, sur ses préférences tactiques, si on veut, une des premières choses qu'il nous a dit que c'était avant tout un coach pragmatique. Oui. Et c'est ce que je crois que Garn va faire de semaine en semaine. Il ne veut pas décider à l'avance ce qu'il va faire, parce que sinon, il aurait déjà pratiqué ce 3-5-2 ou 5-3-2. Pendant le camp d'entraînement ou même dans les entraînements. Samuel Piet l'a dit lui-même après le match. C'est une formation, c'était un peu une surprise pour lui parce que cette semaine, c'était la première fois qu'il pratiquait.
Tout à fait.
Pourquoi qu'il a pratiqué? Parce que là, c'était un bon timing. C'était une formation, le 5-3-2, c'était une formation parfaite pour contrer le 3-5-2 de Toronto. Parce que Toronto joue vraiment en 3-5-2.
Tout à fait.
Ces ailiers latéraux sont beaucoup plus offensifs que défensifs. En ayant 5 joueurs qui jouaient quand même très, très axial dans les moments de danger, parce qu'il y a eu plusieurs moments de danger avec l'Impact de Montréal, l'avantage, c'est qu'il y avait tout le temps un gars bleu disponible pour dégager le ballon dans les moments de catastrophe. Exactement. Il y avait toujours un bleu pour bloquer un tir. Une fois que Jovinko driblait, disons, Cabrera, mais il fallait encore contrer. Il y avait toujours Fanny ou Raitalop qui étaient là pour les contrer.
Tout à fait.
C'était vraiment une stratégie pour gagner ce match-là avec les joueurs en place. Mancuso, c'est incertain, son statut.
Et insuffisant.
Jackson Hamel était incapable de faire le travail de façon efficace pendant 90 minutes. Donc, qu'est-ce qu'il s'est dit, Rémi Garde? Je vais prendre Piatti, je vais libérer, comme il l'a dit, de tout son travail défensif. Un Piatti comme attaquant, si lui était le libéro offensif, lui, il était en électron libre, il faisait ce qu'il voulait. Hein, il s'est concentré sur le côté gauche.
Comme à chaque fois.
Vargas s'est concentré à la relance et il y avait plus ou moins un plan de match une fois qu'on avait le ballon. Une fois que l'Impact avait le ballon, il n'y avait pas de système. Il y avait de la créativité pure.
Exactement. Il laissait les joueurs
créatifs. Et ça ne peut pas toujours fonctionner.
Non, ça ne peut pas, mais encore une fois, on est passé d'un mercato totalement inexistant à un mercato qui est vraiment économie plus. C'est pas mal, c'est bien. Il y aura les défis d'intégrer tout ce beau monde et de voir comment on va jouer, voir comment les gens vont performer. Parce que tu peux prédire, mais il faut performer. Donc, comme on disait, l'Impact va peut-être marquer moins de buts, mais peut-être va encaisser beaucoup moins. On verra au niveau mathématique comment ça va finir. Mais c'est clair qu'au niveau de la formation, je pense pas que Rémi Garde est un philosophe dogmatique. Je pense qu'il est beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus ouvert au changement, être dynamique dans son style. Il y a probablement des principes de jeu clairs. La défense, lui, c'est un principe de jeu. Défendre, récupérer bien et rapidement, jouer vers l'avant rapidement et laisser le créatif faire ce qu'il doit faire, créer, faire mal, progresser, percuter. Donc, c'est exactement ça. Piatti, pour le cinquième coach de suite, ou le quatrième coach juste qu'il a eu, à chaque fois au début, on le joue beaucoup plus bas qu'il devrait pour se décider. Tu sais quoi, on va le monter parce qu'il est vraiment trop fort.
C'est Piatich. Oui, et parce qu'il n'y a pas grand-chose autre que lui.
Oui, aussi. Mais surtout qu'il est très bon.
Ah ouais.
Piatich, c'est pas Valéry. Il faut arrêter de confondre les deux. Là. Les deux sont argentins, ils ont des barbes, mais c'est très différent. C'est Valéry, c'est la version offensive de Tyler là, en MLS.
Ouais,
Piatti, c'est
un attaquant.
C'est un attaquant qui aime jouer ailier parce qu'il aime, il aime taper le ballon, il aime percuter, il aime dribbler.
Mais c'est un attaquant.
C'est un attaquant. Il faut arrêter d'à chaque fois avoir ce débat. Joue là où tu veux. Assure-toi qu'il soit plus proche de la surface de réparation, qu'il soit plus loin. Sauf si lui il décide de reculer plus bas, de jouer, il n'y a pas de problème. Mais quand tu as besoin d'un but, quand tu as besoin de créer, de percussion, un gars qui va courir avec la vitesse, avec l'endurance, avec le bon dribble et balle au pied, c'est Piatti. Le but contre Columbus, c'est Piatti. Piatti n'a pas couru du milieu de terrain, il a reçu le ballon devant la surface. C'est pas compliqué. Mettez-le devant. Il faut arrêter à chaque fois de faire reculer Piatti, sauf si c'est pour lui dire clairement, je veux que tu défendes dans ces situations-là, mais en général, c'est un attaquant. Désolé, Durant. Pardon.
Il y a une autre question, peut-être une dernière sur la formation parce qu'on en a beaucoup, puis finalement on va juste se répéter, mais une question que je trouve même difficile, elle vient de Sport Montréal qui nous demande, c'est quoi en gros la différence entre le 3-5-2 de Biello versus le 3-5-2 de Garde? Je me souviens même que hier quelqu'un disait Fire Biello, il joue juste en 3-5-2, puis là Garde joue en 3-5-2, on crie au génie.
Non, c'est vrai, non, j'ai vu ce tweet, c'était un beau contraste. La différence, je pense, c'est le buy-in des joueurs. Peut-être à ce moment-là, déjà, ils n'avaient pas le milieu de terrain pour le faire, moi déjà. Tu sais, tu as parlé souvent qu'ils n'avaient pas des ailiers ou des latéraux pour le faire. Ok, parfait. Le milieu de terrain était trop poreux. C'était quoi, à un moment, c'était Camara, Cabrera, Simon. À un moment, ça ne marchait pas. Il n'y avait pas de chimie, mais même si ça faisait des matchs nuls, puis ça gagnait une fois de temps en temps. Mais le 3-5-2 était vraiment là pour vraiment mettre du volume dans l'axe. Parce qu'ils savaient que, voilà, qu'il y avait un problème. Ils se prenaient des buts de la tête, ils se prenaient des buts dans l'axe trop facilement. Ils avaient besoin d'être plus dynamiques. Mais aussi, est-ce qu'ils jouaient aussi bas à chaque fois sous Biello? J'ai pas l'impression. Oui, ils bétonnaient sous Biello à un moment donné parce que ça perdait tout le temps. Mais aussi, bah, regarde, c'est contre TFC. J'aime bien voir le 3-5-2 contre Columbus. C'est très différent. Même si dans les deux cas, l'impact a bétonné et a joué très très bas. La différence, c'est le personnel. Petrasso, il est beaucoup plus intéressant. Lovitz a plus de confiance. Tider et Piet, c'est très différent.
Bon, oui, Piet, c'était un sixième défenseur dans la boîte. Il a fait un travail de fou.
Exactement.
Moi, quand je regarde ça, je dis, une des grosses, grosses différences, puis ça va peut-être paraître un commentaire stupide, mais je suis habitué, c'est que la formation de Piet n'a pas eu besoin d'un deuxième but. Puis la formation de Piet n'a pas pris le premier but.
Oui.
De Garde. Si Toronto avait marqué, là, avant que Jason... C'est fini, là. Ouais, là, on aurait changer. Vraiment attaqué... Là. Ça change tout, parce que cette équipe-là, une fois avec le ballon, oui, on a créé beaucoup d'occasions, on en a manqué des chances, mais est-ce qu'elle était vraiment capable d'aller chercher un deuxième but avec les éléments en place? Un 3-5-2 avec peut-être quelque chose d'autre de plus offensif et efficace que Kroliki, là, ça devient différent. Avec un gars qui est capable de tirer loin puis qui ne fait pas juste des petites passes sur le côté puis qui, finalement, ça provoque aucun danger. Le schéma tactique importe peu. C'est tout le temps le rôle des joueurs qui sont dans ce schéma tactique-là.
Oui, et c'est le personnel,
Exact. Et là, Fanny a été hyper efficace.
Ben oui.
Fanny a été efficace pour aller chercher les ballons et pour relancer proprement. La différence, c'est que Cabrera a été hyper efficace dans son pressing et dans sa récupération haute de ballon. Piet a vraiment fait un gros travail pour remplacer en défense, venir appuyer. Tout est là. C'est pas nécessairement que Biello n'avait pas demandé toutes ces consignes-là, c'est sûr. Là. Mais quand tu demandes à Donadel de faire 90 minutes au rythme de Piet, c'est impossible.
Non, ça se fait
pas. Il peut pas. La preuve, c'est que même Garde hésite de lui donner un rôle équivalent pendant 30 minutes de temps.
Non, c'est vrai, puis tu as juste fait la différence. Tu vois ce que l'impact de Tider sur le terrain, c'est énormissime ce qu'il fait. C'est très différent. C'est l'impact, c'est la distribution, c'est la défense, la récupération. Oui, il n'a pas marqué ce but, mais bon, hein, c'est lui qui a initié le 1-2, donc je donne crédit pour ça. 1-2-3. Mais Mais, comme tu as dit, le personnel est différent, les joueurs sont différents, donc le style est différent. Mais si, je pense pas le voir, comment dire, je ne pense pas voir le 3-5-2 revenir à chaque fois à toutes les sauces. Peut-être ça va changer, tu as les blessures, tu as les nouveaux arrivés, comment ces joueurs vont faire, Rudy Camacho, Alisson Silva, non. Où est-ce qu'ils vont jouer et comment. Peut-être Linuen, peut-être. Il est vraiment, c'est l'impact.
Finalement, tu avais raison.
Sur Lee?
Oui. Tu avais raison. Ouais, il y a vraiment, ça discute avec l'Impact de Montréal.
Hein, ça discute. L'Impact, c'est ce qu'on m'a dit il y a quelques jours. L'Impact et les deux clubs sont d'accord. OK, on va se l'échanger. Maintenant, il faut qu'on trouve un deal. Il se peut que ça capote et que ça ne marche pas du tout. C'est très possible. Mais c'est l'Impact le plus proche. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est loin d'être fait. Mais voilà, le joueur n'a pas le choix. Il ne va pas dire non, je ne veux pas parce que c'est un échange. Mais c'est clair que. Ouais.
Mais l'Impact aurait quand même tout avantage à déjà discuter avec le joueur. Parce qu'un joueur qui va rester à long terme à Montréal, et pas seulement cette saison, là, tu n'hésites pas à sortir ce qu'il faut comme gamme et tam ou comme choix de repêchage, etc. Là.
Non, c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce qu'ils vont donner du tam et gamme pour l'échange assez bas pour justifier de juste le garder un an, puis voir ce que ça va donner à la fin de la saison? Ça, tu sais, il y a toutes ces possibilités, je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que tu en penses, Nilton, mais il se peut qu'il ne coûte pas si cher que ça en argent d'allocation et que l'Impact dise, ben, on l'a pour un an, puis on verra ce qui va arriver.
Et on va le convaincre avec le staff actuel qu'il peut gagner des choses avec Montréal. Ben, c'est un gamble à prendre, puis si ça ne fonctionne pas, ben, il n'aura pas coûté cher, puis on trouvera d'autres choses l'année prochaine. Là. C'est une ligue avec beaucoup, beaucoup d'options. Là. On a tout le temps... Le plaisir de la MLS, c'est que si on perd un joueur, puis qu'on a ce qu'il faut, il y a toujours ce qu'il faut ailleurs pour le remplacer.
Exactement, ça se trouve. Et là, l'Impact peut-être va aussi chercher un attaquant peut-être plus tard. On verra ce que ça va donner. Que Bologne a sorti son ayant partant contre Bologne, contre Lazio. Et puis Dimali joue dans un 3-5-2.
On a peut-être les mêmes livres. T'sais, on partage les mêmes livres.
Moi, je pense quoi.
La même bibliothèque et on lit les mêmes livres en même temps.
T'sais, ils ont loadé le template de formation puis ils ont pris ce Bologne à la phase de morale. Ah, ben, il est bon. C'est bon. C'est bon. Pulgar Djemali, OK, c'est bon. Mais c'est en milieu de terrain. Ça marche.
Bon, on parle un peu de Fanny. Je vais combiner deux questions, celle de Christian Ouimet et de David Acosta. Bon. David nous demande, est-ce que Rob Fanny peut nous sortir ce genre de match-là plusieurs fois? Et si ça va bien, est-ce que Fanny va vouloir finalement prolonger avec l'Impact de Montréal? La prolongation de l'Impact avec l'Impact de Montréal, quand je vois Fanny discuter, là, quand je le vois parler, lui, il aurait signé déjà jusqu'en décembre sans problème si ça avait été juste de lui. Il est ici pour un projet quand même à long terme.
Mais tu ne penses pas qu'il préfère attendre, que lui voulait attendre le mercato d'été en Europe pour voir s'il peut se dénicher un petit club de Ligue 1, Ligue 2, en Turquie?
Sérieusement.
En Angleterre, je ne sais pas, il est vieux.
Il ira pas en Angleterre, mais sérieusement, là, je veux pas insulter personne. S'il y a le choix, là, s'il y a un bon salaire à 36 ans, s'installer en MLS à Montréal, c'est vraiment moins bon que d'aller jouer, je sais pas moi, à Guingamp?
Mais c'est bien, Guingamp.
C'est bien.
C'est bien, Comboiré,
ouais, c'est bien. Mais si ouais, mais... Non, mais non, à 36 ans, là, il te reste, disons, deux, peut-être trois saisons dans le corps, OK?
C'est ça. Parce
fin de carrière, comme projet personnel. Là,
c'est vrai.
La MLS, Montréal, l'Amérique, versus un club comme Troyes, Angers, Guingamp, jouer les bas de tableau, des trucs que tu as déjà vécu, mais dans des meilleures conditions avec Marseille.
C'est vrai.
Pour lui, c'est beaucoup plus intéressant, le projet Montréal avec Rémi Garde et tout ce qu'il faut autour de lui pour que ça se passe super bien.
Moi, je suis d'accord avec toi. Si je suis le conseiller de Rod Fanny et que l'Impact veut me re-signer pour une année, même ajouter des années de contrat, peut-être 2 ans, faire comme camarade, c'est finir à Montréal, je dis, Rod Fanny, signe.
Il va signer.
C'est l'argent garanti. T'as fait assez d'argent d'ailleurs. Marseille t'a libéré. T'as ton argent. Tu as payé en dollars US. Tu viens à Montréal.
Leader du club, il va faire des apparitions télé à l'appel, ça va vraiment bien se passer.
C'est ça, tout le monde en parle, ça va être bien, il va passer avec Véro, tout le monde va être content, Nilton. Tout le monde
des nouvelles views YouTube, parce que maintenant, il y a le public montréalais pour l'écouter.
Exactement, et puis, voilà, puis il a le staff lyonnais qu'il connaît très bien de réputation, donc
oui.
moi je trouve que c'est gagnant-gagnant, même s'il va régresser physiquement, peut-être, mais honnêtement, c'est une bonne pioche. Vraiment, c'est bien que l'Impact l'ait en main. Et puis, il a fait le travail, honnêtement. Mais il faut pas oublier, l'Impact a joué très bas. Donc, si on mettait, si on enlevait Moore et on mettait Fanny à la place, est-ce qu'on aurait la même chose? Peut-être qu'il serait très bien de brouiller avec Toronto FC, avec le Toronto, Monsieur Fanny, mais il a ses circonstances et voir ce que ça va donner.
Mais ce qu'on a vu, c'est dans son dernier tiers, quand il n'est pas obligé de courir dans son dos, dans son dernier tiers, dans des 1 contre 1 contre le meilleur joueur de la MLS, c'est-à-dire Giovinco, il n'a pas l'air fou. Tout le contraire.
Au contraire. Non, je suis d'accord.
Donc, tu sais, ce genre de match-là, il va être capable de les aligner tant que le physique va être capté. Il ne faut pas le surménager. Et c'est parfait parce que là, si on a tous ces défenseurs-là en forme, on peut avoir une rotation facile avec Camacho, avec Cabrera, éventuellement avec Diallo. On aligner de temps en temps des schémas à 3 défenseurs quand c'est nécessaire, selon les blessures. Et Fanny va être capable d'accumuler des belles performances si on ne le surutilise pas non plus.
Exactement. Et c'est avec ce genre d'effectif qui est beaucoup plus complet en théorie, on va voir quand tout sera finalisé, que là, tu te dis, je peux faire tourner, j'ai la compétition, j'ai des choix, j'aime mieux, j'aime moins bien. Donc c'est là où on va voir la flexibilité et le pragmatisme de Rémy Garde qui va s'appliquer de façon tangible. On va voir, il n'y aura plus de choix par défaut, il y aura certains, parce que ce n'est pas un effectif du Real Madrid, là, ou même un effectif de Chelsea, où tu as 55 joueurs, mais c'est clair que si tu prends tous ces joueurs, tu ramènes de la compétition et de la compétence, surtout de la compétence enceinte de tes joueurs, c'est là où tu vas voir la différence. C'est là où tu te dis, peut-être que je n'avais pas besoin d'avoir Bernardello sur le banc. C'est là, et je ne veux pas chier sur Bernardello, ouais. Je suis méchant.
Non, mais c'est le concept. Là.
Voilà, c'est le concept. J'ai vraiment tu as besoin de joueurs compétitifs qui rentrent. Toronto FC se sont améliorés depuis qu'ils étaient champions. Ils ne vont peut-être pas faire la série. Peut-être qu'ils ne vont pas gagner la Coupe à MLS. Non, mais je dis, il y a des accidents. Peut-être qu'ils ne vont pas gagner la Coupe à MLS. Mais ça ne change pas qu'ils sont en mode amélioration. Greg Vanney, son 3-5-2, il ne touche pas. Il sait que ça marche. Il a mis les joueurs pour que ça continue à se développer, à s'améliorer. Donc l'Impact doit faire la même chose. Et on peut dire qu'officiellement, le plan quinquennal commence en 2018. Parce que ce qui arrivait en 2017 ne compte plus, ou presque. Mais c'est là qu'il faut commencer, recommencer. Et puis, c'est fini la transition, c'est fini. C'est jour zéro, ça recommence. C'est un club d'expansion, ils ont recruté un peu mieux en attendant que ça se finalise. Mais c'est le moment d'accélérer les choses. C'est fini, il faut couper le cordon ombilical et passer à autre chose. Voilà.
Prochaine question de Matteo Marquez concernant Mancuso. Puis ça, c'est assez intriguant parce que si on se souvient bien, quand il a raté l'entraînement, tout ce qu'on avait su, c'est qu'il n'était pas blessé sérieusement, puis c'était juste un petit congé. Mm-hmm. Après, on n'a plus entendu parler. Donc, Matteo Marquez nous demande, puisque Mancuso est invisible depuis ce lundi, qu'il n'a pas joué parce qu'il était entre guillemets blessé, sentez-vous l'odeur d'un trade MLS?
Wow!
Puisque éventuellement, il nous faut un spot international avec l'arrivée de Silva et de Camacho. C'est assez rare, des internationaux qui sont échangés à Montréal, à Port-Simon, c'était le premier.
Oui, mais il y avait Nemeth, non? Nemeth qui était de
KC. Oui, exact. Il y en a eu quelques-uns.
Je pense. Est-ce que New England ont besoin d'un attaquant pointe? Je vais te voir, là.
New England, beaucoup. Ben, justement, Nemeth est rendu là-bas.
Ben, ils ont Agudelo, mais pas vraiment en pointe. Ils ont Burnbury, c'est vrai.
Ben, bon, on peut l'échanger juste pour... écoute, on peut l'échanger pour un peu d'argent ou pour un choix ou pour absolument rien. Ouais. Quelle est la valeur de Mancuso dans MLS? Est-ce que Mancuso veut vraiment aller ailleurs dans MLS?
Vraiment il est échangé en MLS, c'est que son salaire de 700 000, c'est pas le vrai chiffre. Parce qu'aucun club va prendre un salaire aussi haut que ça. C'est impossible.
Mais lui, il est pas... Exact. Il est surpayé. La preuve, c'est qu'il ne s'est pas trouvé de club en série B prêt à payer. L'autre alternative possible, mais là, on est trop loin dans la saison parce que ça ne fait plus de sens, ce serait de le prêter en série B en payant une partie de son salaire. Mais Montréal ne fait pas ça, sinon il aurait déjà échangé au Duro. Montréal veut faire des opérations comptables présentement. Ils veulent libérer
de l'espace,
dans la masse salariale. Ils veulent optimiser leurs dépenses. Donc, Mancuso est là, selon moi, en toute logique, Matteo est à Montréal jusqu'au mercato d'été en Europe.
Je pense aussi, mais c'est sa blessure et ben, le manque d'informations sur sa blessure
est un peu. C'est que Montréal est là.
Ouais, c'est vrai, c'est un peu louche, mais bon, on va pas faire, je vais pas commencer à rentrer dans les théories du complot, puis Area 51, puis Agenda 27, et puis et autres théories du complot que je viens d'inventer. Mais honnêtement, je sais pas, honnêtement, la question est bonne, mais honnêtement, voyant les besoins de l'Impact et comment Mancuso est insuffisant en général par rapport aux ambitions du club, je m'en fous un peu.
Puis on n'a jamais su de quoi exactement Matteo était toujours blessé. Il est souvent blessé, mais on sait jamais où.
Ouais, sauf quand il portait un plâtre. Ça, c'est la seule façon qu'on le savait.
Puis, il a peut-être mal au genou.
C'est possible. Non, mais il se peut que sa blessure soit légitime. Je veux pas.
Oui, je sais, mais on sait rien.
Voilà, donc. Mais c'est juste que la question est intéressante. Ça nous fait un peu réfléchir. Mais je me dis, tout bad. Voilà, il est blessé, il va revenir, il va marquer des buts, tant mieux. Il est échangé, tant mieux. Il s'en va en série B, tant mieux. C'est tant qu'il est content.
Mais de ce qu'on, entend de Garde, Garde l'aime bien.
Ouais, bad, Garde n'aime personne d'autre. On va faire semblant là. C'est, la pré-saison commence, Jackson Lamel se blesse, boum, allez hop, Mancuso il marque un but en pré-saison, boum, mais après il fait rien. C'est, en Vancouver il fait un bon match, Columbus c'est un peu mieux, puis après il disparaît. Donc on va voir ce que ça va donner. S'il est changé en MLS, Nilton, je serais étonné, mais je dis bravo, puis on verra. S'il fait partie de l'échange avec l'Inuel,
si t'es changé en MLS, on peut tout de suite mettre Adam Brass sur le mur.
Tout de suite.
Hein, il y a 100 matchs, lui?
On lui fait un mur spécial.
Le mur? Employé du mois.
Employé de l'année. Employé de la décennie. Parce que là, il accélère, là, il travaille beaucoup. Puis,
accomplissement, il a échangé Matteo.
on lui donne un doctorat honorable, honorifique.
Ouais.
À McGill.
Ouais. Il a signé au Duro, mais il a échangé. Il s'est repris en échangeant Matteo.
Ça c'est fort.
Marc-André nous demande quel est l'avenir de Duval avec l'Impact de Montréal et en même temps, est-ce que Louis Bélanguyette est en haut de Kroulouki dans le fameux depth chart?
Tu veux commencer sur Duval?
Duval, je vais me répéter par rapport à la semaine passée. Je trouve ça bizarre, son utilisation.
Ouais. Ça descend aux enfers.
Il mérite pas ce traitement-là tant que ça. T'sais, des minutes de jeu, il en mériterait parce que c'est quelqu'un de très honnête sur le terrain. Bon, tu sais, c'est une bataille avec Petrasso, avec personne d'autre. Là. Il ne peut pas jouer ailleurs que latéral droit, mais il va finir par avoir ses minutes. Tu sais, il faut que Duval soit patient. C'est frustrant parce qu'il sort d'une saison pleine. Une bonne saison, quand même, selon moi. Il va avoir ses chances. C'est quand il va être sur le terrain, éventuellement, parce que Petrasso va avoir des pépins physiques, c'est sûr. Petrasso va avoir besoin de souffler. Sinon, il va falloir qu'il démontre au staff actuel, « Hey, les boys, je suis capable, je suis différent, mais je suis quand même capable de vous aider. » Il a juste besoin de se faire connaître par Garde et son staff, selon moi. C'est non, tout ce qui lui manque.
Non, mais c'est vrai, mais de façon binaire, soit il est dans les plans du club pour faire partie de l'effectif de façon régulière, ça c'est parfait et c'est normal, soit tout simplement, il serait peut-être une monnaie d'échange dans le futur, c'est possible.
Ouais, mais il n'y a rien d'autre à sa place, il faut quand même quelqu'un.
Exactement, mais quand il dit Lovitz peut jouer à droite pour dépanner, Raitala peut remplacer Lovitz, Fanny peut jouer temporairement latéral droit de temps en temps, il y a ces possibilités-là, il y a cette réflexion qui peut arriver.
Ouais, mais,
maintenant, mais Sofiane, Duval n'a rien fait mal pour moi pour être jeté comme un torchon. Mais c'est clair, soit il est dans les plans du club pour l'année, ou du moins jusqu'au mois de juillet, Soit il l'est pas. Et je pense que c'est le seul latéral droit de métier. Beaucoup plus que Petrasso.
Qui connaît la MLS.
Maintenant, il faut qu'il performe, on verra en entraînement.
Commence un match. Hier, on commence le match avec Duval à la place de Petrasso parce que Petrasso est suspendu. Le match, il n'est pas si différent que ça.
Il n'y a pas de choc, mis à part le fait qu'il a très peu joué en pré-saison.
Mais tu sais, un Duval de l'année passée, là, en pleine forme, là, joue le match d'hier. C'est kiff-kiff, là, c'est pareil. Là.
Non, il fait le travail. Même s'il s'aventure beaucoup, il fait le travail. Moi, on parle de profondeur, Duval est là pour...
Pour ça que moi, j'ai confiance. Moi, si j'étais là pour conseiller Duval, je lui dirais de prendre son mal à patience. Éventuellement, il va jouer. Éventuellement, toujours, l'option B va aligner des minutes. Et s'il joue son jeu, il va prouver à garde et au staff qu'il a sa place. Puis que de temps en temps, il va pouvoir même faire de la concurrence à Petrasso. Ils vont finir par l'aimer.
Non, je pense aussi. Maintenant.
Kroliki versus Louis.
Ils sont assez différents dans le profil. Très, hein? Très, très. Même si les deux importent le ballon, Belanguet, il est plus proche d'un Tider qui aime moins monter. T'sais, il aime distribuer, il aime se rendre disponible. Un sort de mélange entre Tider et Dundal, si tu veux. Je fais ces comparaisons pour aider les gens à visualiser avec moi. Kroliki, il aime jouer vers l'avant, mais il a beaucoup d'impact physique. Il aime rentrer dedans, il aime mettre le pied. Lui aussi, mais ils sont assez différents. Maintenant, encore une fois, comme pour Jackson Hamel, est-ce que Louis Banguet sera en forme pour au moins 25 matchs? Si oui, s'il n'y a pas de blessure,
Il a quel âge, Louis? Tu le sais-tu?
Il doit avoir 22 ans maintenant. Attends, sois vérifié. Okay. Il avait 21. Attends, on arrive. Il est né en. Il a 22 ans, c'est ça. Il a 22 ans, donc il est encore jeune, en guillemets.
Mais plus vieux que Kroliki.
Oui, plus vieux que Kroliki. Mais maintenant.
C'est le problème. Mais physiquement, il n'a pas l'air assez avancé versus un Kroliki. Il devrait déjà avoir une maturité physique plus avancée pour dominer un Kroliki.
Mais je pense que c'est son style. Genre, son physique porte un peu à erreur. T'as l'impression qu'il est frêle, mais il est beaucoup plus fort qu'on pense. Il a évolué avec l'AC Montréal. Sa première saison a été difficile. Sa deuxième saison était beaucoup plus intéressante. Il avait de l'impact. Il avait joué contre Salt Lake, le fameux 3-1. Il était titulaire. Ouais. Donc, on voyait Louis Belanguet qui commençait à vraiment rentrer dans son jeu et trouver son identité dans un club MLS. Mais ça ne change pas. Il faut qu'il reste. Il ne faut pas qu'il se blesse bêtement. Si quelqu'un te rentre dedans et te écrase la cheville, tu ne peux rien faire. Mais si c'est des blessures musculaires ou des blessures parce que, bon...
Si c'est le corps qui ne suit pas, là, c'est un problème.
C'est ça. On ne veut pas... C'est des blessures qui font mal parce qu'on ne t'a pas fait mal. Tu t'es fait mal tout seul. Ça, c'est dommage. Mais si Louis Belanguet reste en forme et évite la malchance, il aura une vraie compétition pour ce fameux jeune qui va essayer d'être ce troisième milieu de terrain, dépendant où est-ce que va jouer Silva ou Vargas.
Parce qu'avec les peu de minutes que j'ai vues en MLS, contrairement à toi que tu l'as vu avec le FC Montréal, le peu de minutes que j'ai vues de Louis sur le terrain, c'est mieux au niveau technique que Kroliki.
Oui,
Kroliki va couvrir beaucoup plus de terrain. C'est plus son style, on le voit là. Kroliki, c'est un box-to-box pas technique. Tandis que Louis, une fois qu'il a le ballon au pied, il y a une vision. Il y a une vision du jeu, seulement sur les côtés ou l'option simple derrière. La passe hors-jeu à Vargas.
C'est Vargas.
Qui a fait une passe hors-jeu. C'est une belle passe intelligente qui détruit une défensive. Lui est capable de le faire. Kroliki, en pré-saison, il ne l'a pas fait. En MLS, encore moins.
Tu as tout à fait raison, Hilton. C'est une excellente analogie et entre les deux, comparaison entre les deux. Et l'action que tu as mentionnée était parfaite pour illustrer ce qui est Louis Belanguet, le joueur. Pour illustrer un peu plus, Kroliki, si tu joues à FIFA, c'est le joueur que tu as pu X longtemps puis il va suivre le porteur du ballon. Il va le faire.
Oui, c'est totalement ça.
C'est ça. Puis il va le faire, puis il va contenir le joueur, il va faire un tac, il va chercher le ballon, mais il va tout le temps suivre le porteur du ballon. Lui, ouais. c'est un soldat, un bon caporal.
Tu le mets en boost tout le long, exactement. Il ne perdra jamais de jeu.
Voilà, exactement. Et puis, Louis Boulanguéette, il est beaucoup plus proche d'un Patrice Bernier, moins le côté CONCACAF, moins le côté un peu chien que Bernier a. Dans, s'il y avait un héritier pour Patrice Bernier au sein de l'Académie de l'Impact, Louis Boulanguéette serait ce joueur qui pourrait le remplacer dans l'esprit de jeu.
Ouais. J'aime jouer avec, vers l'avant. Avec son IQ foot un peu plus élevé.
Exactement. Il cherche vers l'avant. Oui, il va distribuer de façon horizontale, mais il cherche la verticalité dans ses passes. Il va aller percuter. Il va porter le ballon vers l'avant. Il va prendre des risques. Mais malheureusement, ce poste est pris par Taider. Il sera pris par Vargas s'il joue plus bas. Il sera peut-être pris par Silva du côté droit. Donc, malheureusement, pour lui, pour Boulanguéette, la compétition est très, très dure. Mais si Garde est vraiment honnête dans ce qu'il a dit par rapport à intégrer les jeunes de l'académie de façon systématique, mais pas
il
automatique.
Il va être toujours sur le banc pour avoir ses minutes
exactement.
Disponibles.
Exactement. Ouais, exact. Je m'attends pas à ce qu'ils soient utilisés de façon automatique, mais de façon systématique, qui considère les jeunes, les meilleurs jeunes, parce que si t'es pas bon, t'es pas là. Si t'es
mais
pas
c'est son bon, rôle. C'est un des objectifs qu'il a obtenu au moment d'embauche. Oui, c'est les séries, mais c'est le développement local de l'académie. Là.
Exactement. Puis essaie de savoir si un gars est pris ou pas. Ça aide d'essayer de jeter le garçon dans la piscine. Est-ce qu'il va nager? Il faut qu'il apprenne à nager d'une façon. Et c'est là on va voir les différences entre j'ai peur de perdre des matchs ou oui, j'ai peur de perdre des matchs, mais je dois connaître mon effectif.
Hier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sorti Kroliki, il n'a pas mis Donadel.
Non.
C'est vrai. Déjà, tu le vois, là, il est disponible, Louis. Il l'a vu depuis le camp d'entraînement. Maintenant, il est prêt physiquement. Go, je mets Louis dans sa position.
Et imagine
pour comme milieu défensif. Il ne l'a pas mis à côté de Piet. Il l'a mis à côté de Taider.
En prenant, et c'est très bon point Nilton, et en prenant en perspective les six dernières saisons de l'Impact, ou les cinq dernières, je perds mes mathématiques, faire rentrer Louis Boulanguéette au Stade Olympique contre le Toronto AFC, champion MLS, qui dominait le milieu de terrain à 63% de position de balle, le faire rentrer à la 66e minute,
au lieu du vétéran,
non? Oui, au lieu du vétéran, et le faire rentrer à la 66e, je trouve que ça prend du courage et ça prend une prise de risque. Parce que le Boulanguéette, l'avoir à la 85e. Comme tu avais dit, c'est Donadel qui serait peut-être rentré à la place de Kroliki dans un autre
match. C'est sûr. Biello fait rentrer Donadel. C'est sûr.
Ou Malas.
Et Nilton George. Il aurait fait aussi.
Ça. Et moi, je suis sur le banc en train de dire pourquoi moi je ne rentre pas, tout le monde me déteste. Voilà. C'est ça.
Non,
on voit une différence. Moi, j'étais étonné de voir Boulanguéette rentrer aussitôt. En même temps, qui y avait sur le banc en termes de milieu de terrain? Ben, c'est soit Léo Donadel dans l'axe. Edwards peut-être, mais c'est trop risqué parce qu'il perd trop de ballon. Et c'est plus du côté offensif des choses que du côté axial, défensif, récupération. Puis voilà, il a le profil. Et on va voir où est-ce que les pions vont se placer quand Silva va venir, comme Macho et les autres. Et peut-être Linuen. Alors, si Linuen arrive à Montréal, ça va être le bordel total au sein de l'effectif.
Là.
La chimie.
Qui ça va leader? Être le fun.
Parce que là, tu en as des leaders. Tu as Bush le leader. Tu as Fanny le leader. Tu as Cabrera le leader, mais un peu plus timide. Tu as Piet, un jeune leader qui va s'imposer par son jeu. Tu as Taider, le leader identifié comme je viens d'Italie, je suis bon, j'ai joué une Coupe du Monde et deux cannes, je suis Sapi Taider. Piatti, je ne parle pas trop, je suis capitaine, mais je suis un leader, je marque des buts. Après, tu ajoutes. Tu vas ajouter l'union dans tout ça. Attention, attention.
Arrête de nous faire rêver là.
À vous. Hein. Et cet ajout va peut-être faire mal ou bénéficier les jeunes. On va voir. Mais il y aura un chamboulement dans l'effectif, ça c'est clair. Il faut s'y attendre. Malheureusement, ce chamboulement aurait pu arriver au mois de janvier. Ça aurait été beaucoup plus serein.
Idéalement, oui, là, c'est sûr. Mais bon.
Il aurait eu team building en Floride.
On s'en sort bien. On s'en sort bien.
C'est vrai. Mais tu sais,
la victoire contre Toronto, elle est bonne moralement. Elle est bonne au niveau comptable.
C'est vrai.
À la limite, on aurait pu faire match nul, les deux matchs nuls à l'étranger, perdre à Montréal contre Toronto. On se retrouve moins bien au niveau classement, même si c'est mieux au niveau, disons, projet sportif. Là, on bat nos rivaux. On a 3 points en 3 matchs. Les deux matchs à l'étranger, ben ça reste quand même à saveur de match nul, si on veut. On a un congé de 2 semaines. On a des rumeurs, des joueurs qui s'en viennent. Le momentum est là, là.
Non, c'est vrai.
Le momentum est vraiment installé.
Non, tout à fait. Et puis, même si un match nul n'aurait pas été catastrophique en termes de jeu, Toronto aurait pu faire un match nul, il n'y aurait pas eu de débat, je pense. Si quelqu'un pense que l'Impact méritait de gagner à 100%, il faut arrêter de rêver.
Non,
Toronto, à 50%, était aussi dangereux que l'Impact à 80%. Je suis vraiment désolé. Même s'ils ont eu plus de chances d'occasion de marquer pour faire le 2-0, le TFC, là, si ce n'était pas Cabrera et Bush, évidemment, ils font leur travail. Le TFC, endormi, fatigué, pas nécessairement en forme, entre guillemets, aurait pu faire match nul assez facilement. Il aurait pas été, même une victoire du TFC n'aurait pas été graphicisme, voyant comment, en combinant les stats et ce qu'on a vu sur le terrain. Il avait possibilité. Donc voilà, mais c'est le foot. Hein. Le foot, c'est injuste, c'est juste, c'est injuste, c'est méchant, c'est gentil, ça fait rire, ça fait pleurer. C'est le sport le plus dégueulasse et le plus beau du monde. Voilà.
Une petite dernière question avant de passer à un autre sujet. Peut-être oui. Steph Rad qui nous demande, on a souvent entendu dire que Piatti en pointe, il n'était pas son meilleur. Garde a dit en conférence de presse justement qu'il avait mis à cette position pour le libérer de ses devoirs défensifs.
Et voilà.
Alors, ben oui, un ben non avec Piatti en pointe.
Ben oui, je le dis depuis 3 ans. Ben oui. Ben oui.
Oui, mais, okay, mais...
Appelle ça la pointe. Appelle ça la pointe de pizza. Ouais. Appelle ça
la... Probablement, on dit la même chose, mais en pointe, là...
Très souvent.
Moi, je dis un ben oui à Piatti libéré
oui.
défensivement.
Électron libre.
Mais un 4-3-3, Piatti est libéré défensivement.
Dans, mais un 4-3-3, mais tu ne demandes pas de trop défendre, ce qui va être inefficace.
Ça, oui, mais...
Dans un 4-3-3, tu as intérêt à jouer haut. Sinon, Piatti va s'emmerder. Piatti va pas
mais faire... quand on dit 3, là, 4-3-3, c'est que les 3, c'est 3 attaquants. Oui, tu comprends mais... ce que je veux dire?
Oui, mais tu peux... Mais il faut qu'il défende un minimum, sinon ton équipe...
Ouais, mais un minimum. Il faut qu'il soit disponible à la récupération. Il faut qu'un 4-3-3, ça permette de faire un pressing qu'un 3-5-2 ne permet. Hier, il y a eu 0 pressing.
Non, non, et c'était pas
ça. Tu sais, le fameux pressing qu'on voyait en début de saison ou en pré-saison, où on alternait sur les défenseurs. Ça, hier, il n'y a pas eu ça.
Non, pas du tout.
Pas c'est du vrai. Tout.
Pas du tout.
Donc, si le rôle de Piatti, quand on n'a pas de ballon, c'est d'aller provoquer des erreurs sur le défenseur latéral ou sur son défenseur central, c'est assez comme élément défensif pour Piatti. C'est assez, là.
Non, c'est vrai, puis regarde. Non, je suis d'accord. Mais le truc, c'est que Piatti, dans un 4-3-3 ou même un 3-5-2 du Toronto FC, avec ses joueurs et avec ce style, est très différent d'un 4-3-3 avec l'Impact de Montréal qui est encore en processus de création d'identité de jeu. Dans le sens, ce n'est pas une équipe qui va garder le ballon à 50% et qui va jouer haut.
Très rarement.
Contre Columbus, on l'a vu, chacun a eu sa mi-temps. On a vu que Piatti jouait
beaucoup plus haut. Mais Columbus avait laissé aussi. Ils étaient rendus 2-0. Là.
Exactement, mais ils n'étaient aussi pas parfaits. Ils ont des lacunes, Columbus, puis ils le savent.
Oh,
mais... Piatti, sur le positionnement moyen du joueur, c'était le joueur le plus qui jouait le plus à l'avant pour l'Impact. Il jouait plus à l'avant l'Impact. Altidor et Giovinco sur le terrain jouaient plus haut que Piatti. Parce que souvent, c'est Giovinco, c'est un étranger libre, il va jouer beaucoup plus haut. Ça, c'est clair. Mais Piatti jouait beaucoup plus haut. Il mélangeait la pointe avec Vargas. Les deux se alternaient les postes. Donc, si un fait la passe, l'autre fait la course. Mais Piatti, regarde, appelle ça pointe de pizza, appelle ça aile de poulet côté gauche, appelle ça ce que tu veux. Mais ce qui est important, le but premier de Piatti, c'est d'être proche de la surface des réparations. Soit pour faire la passe, soit pour tirer et marquer. Ou, au pire des cas, c'est le premier joueur qui reçoit un ballon de Piet ou Tider pour pouvoir monter le bloc et faire ses courses fofolles qui font peur à tout le monde. C'est sur le but.
Il joue le même rôle que Giovinco. Il fait la même chose avec ses propres qualités à lui. Là.
Exactement. Giovinco est beaucoup plus technique et complet, plus proche d'un numéro 10 à l'ancienne.
Oui, tout à fait.
Où il peut vraiment jouer un milieu de terrain sans aucun problème. Mais comme c'est la MLS, il décide de marquer 35 buts par année.
Giovinco, c'est un 9,5 qui tire vers le 10. Et nous, on a Piatti 9,5 qui tire vers le 9.
Exactement. Exactement. Et c'est tout à fait. Les deux peuvent jouer ensemble. Ce serait le meilleur duo de la Ligue.
Il y en aurait des pénales. Hein?
Ça, c'est vrai. Donc, la différence, c'est qu'il faut que Piatti soit mis dans des dispositions de pouvoir aider l'équipe offensivement. Est-ce qu'il va défendre? Oui, non. Il est généreux dans l'effort.
Il va le faire.
Mais si tu as besoin de marquer des buts, et sachant qu'il y a 0 attaquant qui vaut la peine, à part Jackson Hamel, je veux voir Jackson Hamel jouer. Je veux, parce que je pense que Jackson Hamel peut être cette année. Cette année peut être l'année à Jackson Hamel pour pouvoir se trouver quelque part ailleurs en Europe ou s'établir comme un gars de l'Impact à 100%, comme l'attaquant numéro 1. C'est un feeling que j'ai. S'il peut s'établir maintenant, c'est maintenant ou jamais. Et Piatti, c'est la clé pour débloquer tout ça. Donc, s'il n'y a personne devant lui, c'est lui qui va faire la différence. Il y a Vargas qui va jouer comme faux attaquant. Et on va peut-être mettre un jour, même Oduro comme faux attaquant s'il le faut. Mais c'est clair que Piatti, c'est la clé maîtresse. Sur le but de Vargas, t'as vu comment Moore reculait à chaque fois?
Ben ouais, ben oui, il l'a complètement libéré. Là. Il a fait un petit geste pour attirer le défenseur vers lui.
Et boum, c'est fini. Alors que Moore aurait dû aller sur Piatti, parce qu'ils étaient 3 contre 2.
Tu sais, oui, Piatti, il est égoïste. C'est pour ça que c'est un 9.
Ben oui.
Mais quand il a confiance à son partenaire, quand de temps en temps, il va vouloir, là, quand il devient une tête dure, puis il va vouloir marquer le but, c'est assez difficile de convaincre de l'inverse. Mais Piatti, quand il voit la bonne option à côté de lui, Vargas a été ça. Il a créé une situation pour libérer Vargas.
Tout à fait. Et Vargas lui a offert l'option. Regarde, je suis bien placé, je te suis, utilise-moi.
Et avec Silva, c'est ça qui va arriver. Tu sais, c'est la nature humaine. Il va y avoir des connexions. Les connexions avec Silva, ça va se faire. Tu sais, c'est les gars, ils viennent tous les deux du championnat argentin. Ils se connaissent un peu. Il va vouloir l'aider. Il va vouloir lui donner des bons ballons. Mm-hmm. Silva va faire la même chose.
Exactement.
C'est sûr là, que quand il est dans la boîte, c'est 1-0. Là, il est tout énervé. Il veut tuer le match. Taider est à gauche. Il n'est pas nécessairement beaucoup mieux placé que lui. Piatti va tirer. Tout le monde va crier après Piatti parce qu'il a tiré. Mais moi, si je calcule en maths, si je pense en maths, je veux que ça soit Piatti qui tire. Parce qu'il est au milieu, il est dans la boîte, et c'est lui qui va avoir les meilleurs pourcentages de réussite, malgré tout. Puis Piatti, il fonctionne aussi un peu comme ça. Puis c'est correct, là. S'il prenait toujours les bonnes décisions, San Lorenzo l'aurait vendu, là. Il l'aurait vendu pas à Montréal, il l'aurait vendu ailleurs, là.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Puis avec l'âge qu'il a, et sa maturité, son vécu et son excellente forme physique, que ce gars-là, il se garde en forme à chaque fois, c'est hallucinant.
Ben oui, il court.
Piatti, c'est la clé. Il faut l'utiliser. Il faut le supporter. Taider sera un support. Piatti est un support. Silva va être un support. Et éventuellement, qui sera l'attaquant de pointe va être un support. Et ça, il faut être tout le temps. Et dépendant de lui. T'as pas le choix parce qu'il est bon. T'avais Diévalo, t'avais Drogba, maintenant t'as Piatti. Il n'y a pas d'autre débat, il n'y a pas de troisième attaquant qui était bon. C'est point final. Tu avais des vrais attaquants, tu avais un faux attaquant qui va être un des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Impact s'il continue comme ça. Bon, autre sujet.
Est-ce qu'on finit? Je sais que avant l'émission, tu m'avais fait part du petit article du favori de la foule montréalaise, Larson.
Yes, Curtis Larson, from the Sun.
Mais écoutez, je vais te laisser aller là, pour parler, mais je vais juste faire un petit préavis là, à tous les amateurs de l'IMFC. Kurt Larson, là, il fait exprès. Faut pas...
C'est un provocateur.
c'est un petit troll de journaliste. Il fait exprès. Il va dans le deuxième niveau. Il sait des fois que ce qu'il dit, c'est pas totalement vrai, mais il s'en fout. Il est là pour provoquer. Faut pas toujours embarquer dans ce qu'il dit. Mais des fois, même dans son deuxième niveau, il peut avoir des choses intéressantes.
Non, c'est vrai. C'est vrai, mais son histoire de trolling professionnel, du moins l'impression qu'on a qu'il troll puis les fans, puis c'est pas juste l'impact, là, il va avec tout le monde. Bon, un peu sali un peu les propos qu'il peut tenir, mais là, je vais lire quelques extraits, je vais traduire en direct. Bon, il disait les Reds n'ont pas donné d'excuses après la défaite de samedi contre l'impact. Pourquoi ils donnaient des excuses? En regardant le contexte, donnant du contexte après ces défaites n'aurait pas été une bonne chose. Mais n'importe qui a vu ce match doit conclure deux choses de ce match de début de saison. Le Toronto FC semblait jouer à 50% de ses capacités.
Et peut-être exagéré le 50.
C'est peut-être exagéré. Et Montréal. Ouais. Devait être très très concerné par rapport à leur performance, qui était une des pires qu'il a vu, qui a été vue durant un derby. Il parle de Jeremy Morel Toronto. Je pense qu'il y a eu pire. L'Impact a joué pire que ça auparavant.
Oh, yes.
Donc c'est là où il se délégitimise un peu avec cette phrase là. Mais il dit quelque chose d'intéressant. Moi je suis d'accord avec lui. Les Reds probably deserve a point Saturday afternoon in Quebec after holding more than 60% possession on the road for the entire game. Donc, Mais ils utilisent les stats pour dire ben, la possession est à 60%. Ils ont, le Toronto FC a eu plus de tirs cadrés que l'Impact et ont complété presque 700 passes, alors que l'Impact avait complété à peine 400 passes, 407 passes.
Ça s'appelle la corrélation. Là. Quand tu as beaucoup de possession, c'est parce que tu as beaucoup de passes.
Exactement.
Mais bon, donc, il n'a peut-être pas fini ses matchs, lui.
Exactement. Puis lui, ce qu'il dit, c'est que cette différence dans la possession et le nombre de passes est assez ahurissant. Sachant ce qu'on a vu auparavant dans les derbies précédents. Mais bon, c'est clair qu'il veut, ça enlève un peu du cachet à la victoire de l'Impact. Mais je trouve que Garde, qui est pragmatique, a même dit ben, ça aurait été pas foufou qu'il y ait un match nul. Comme nous, on a été frustrés par Columbus.
Exact.
On aurait pu être Toronto, peut-être se sentir un peu frustré par l'Impact. C'est pas nécessairement les mêmes situations, mais on voit le contexte. Donc Curtis, regarde, il est un peu troll. Il est un peu
provocateur. Oui, mais il regarde le match avec ses yeux de Toronto, comme nous, on a regardé le match avec nos yeux Montréal.
Exactement, exactement. Et puis, il faut pas trop rentrer dans son jeu. Et il est peut-être chiant. Je connais personnellement, je le connais un peu, juste pour dire bonjour. Il n'a pas l'air d'être une mauvaise personne, mais je ne le connais pas. Mais voilà, il a écrit l'article, c'est son boulot. Mais au moins, je préfère un gars comme lui qui est tranchant qu'un gars qui va, va me dire ce que je sais déjà. Genre, OK.
Lire du gris, c'est plate un peu. Mais la victoire de Montréal contre Toronto, ben, c'est ce qui s'est passé avec tous les autres clubs de MLS qui ont joué mercredi ou mardi en Champions League.
Tout à fait.
Les clubs mexicains qui ont joué ont perdu leur match de championnat aussi. Toronto, c'est leur 8e défaite consécutive après un match de la Champions League. Là. Je veux dire, on n'a pas réussi quelque chose. Puis oui, il a raison, le match aurait pu basculer d'un côté ou de l'autre. Petrasso n'arrête pas la balle, là. C'est 1-1. Il y a des tirs de Altidore, de Bradley, qui sont passés tout proche du poteau.
Ben
mais nous aussi, on a eu des buts ratés. Là, a eu Tider qui est passé tout proche du poteau, Piatti qui a pris des décisions moins bonnes.
Tout à fait.
Ça a été à peu près égal. Tu sais. Les tirs cadrés, il a utilisé la statistique tirs cadrés parce que les tirs au but, elle était égale. C'était 11-11. Larson a pris les stats qu'il fallait pour justifier son argumentaire. Tu sais. Puis il réutilisait toujours un peu les mêmes stats, mais qui s'appellent autrement. Tu sais. Possession de balles et les passes, les possessions de balles sont définies principalement par le nombre de passes. Donc, répéter toujours la même chose, comprend. Toronto n'était pas loin d'aller chercher un point. Toronto n'était même pas loin de partir avec une victoire non plus.
Les gens ne doivent pas se tromper. Une victoire de Toronto FC n'aurait pas été un vol, sauf si on parle du penalty non appelé ou non appelé sur Piatti. Ça n'aurait pas été un vol, il ne faut pas oublier. On est seulement au mois de mars, là.
Là où est-ce qu'il exagère, c'est quand il dit que Montréal devrait être inquiet. Non, ben non, pas du tout. Trois premiers matchs de 2018 versus les trois premiers matchs de 2017, c'est un monde de différence.
Exactement.
L'effectif de 2018 avec ce qui s'en vient, c'est un monde de différence. Même si Montréal avait perdu les trois premiers matchs en 2018, là, oui, c'est compliqué, là, zéro point après trois matchs, c'est inquiétant. Mais le jeu de Montréal n'est pas inquiétant du tout, du tout, du tout. On voit qu'il y a quelque chose de possible. Si ça avait été trois défaites, ça aurait été une conséquence un peu trop grave par rapport au jeu à faire. Montréal est capable de faire jeu égal avec n'importe qui dans la MLS, selon moi. T'sais, Et avec un Silva, avec un Camacho, on ne les connaît pas, mais de réputation, avec un effectif un peu plus complet, Montréal n'est pas dans les bas-fonds de la MLS du tout, du tout, du tout. Le staff est capable d'utiliser cet effectif-là à son maximum. Et c'est plutôt lui qui devrait être inquiet sur l'an 2 du TFC. L'an 2 du TFC va être peut-être un peu compliqué parce que si tu réussis à gagner pour la première fois la Ligue des champions, un club de la MLS qui gagne pour la première fois la Ligue des champions, la motivation en MLS, ça va être peut-être un peu tough. Hein? Le lendemain de party va être tough. Et si tu perds, le lendemain de veille aussi va être tough aussi parce que là, il faut tout recommencer à zéro. Moi, j'aime mieux ma position-là avec l'espoir de jour meilleur de Montréal. Toronto, ils sont en train de vivre un bon mois, là. Ça va être le fun. ça peut finir à n'importe quel moment, mais une fois que ça va être fini, peu importe comment que ça va être fini, le lendemain, tu risques de déchanter un peu parce que il se passe quoi? C'est, oui, il y a des ajouts, c'est pas des ajouts d'envergure, c'est à moins que cet été, pour relancer un peu le truc, pour repartir un nouveau cycle, il décide d'aller chercher une autre superstar parce qu'il faut redynamiser le club. C'est plus... Si on veut jouer le troll, je trouve que c'est beaucoup plus facile de troller Toronto aujourd'hui que de troller Montréal.
Non, ça, c'est un très bon point, Nathan. Excellent, excellent analyse. C'est pas c'est pas un rant, là, mais je suis un peu déçu, mais c'est une belle analyse.
Ouais, mais les rants, il faut les attendre au bon moment, là. C'est on peut vrai, pas dire vrai. Nos playoffs à chaque année.
Non, on peut pas. C'est trop tôt pour ça.
Hein? C'est ça.
Bon, ben, on peut finir sur ça?
Je pense que oui. Là on doit pas être très loin de Marcel Lyon. Ouais, c'est ça. Juste à temps pour aller voir Marcel Lyon.
Très bien, très bien. Le Olympico. Bon, ben,
c'est le derby de où, celle-là, là? C'est quelle autoroute entre Marseille et Lyon?
Regarde, comme dirait... Okay. pardon.
On allait finir super bien.
Regarde, comme dirait Jackson Hamel, est-ce qu'on aime ça, battre Toronto? C'est le derby de l'avant. Qui nous lâche avec la 401?
On s'en fout.
Sur ces mots sages de l'attaquant de l'Impact de Montréal, on conclut l'émission. Merci, Nilton.
Encore une fois, merci la gang pour toutes vos questions. Oui. C'est toujours, toujours apprécié.
Merci pour toutes les questions. Merci, Nilton, de poser la question. On a peut-être des vingtaines, trentaines de réponses à chaque fois. Merci tout le monde qui nous suit sur Twitter, @Sofiane Bendaza, @Nilton George, @CanFootClub, sur Facebook, CanFootballClub. Likez nos articles, partagez notre contenu. Très, très important. On vous envoie des questions, on vous envoie des débats, on va parler avec vous souvent et même trop de temps en temps, je pense. On vous donne trop de contenu. C'est gratuit tout ça. C'est inacceptable. On va vous faire payer.
Il y a tellement de contenu qu'on le retrouve ailleurs.
Exactement. Par magie. Nilton, il faut qu'on arrête là, sinon on va trop dire. Sur ce, on se beau dimanche, son beau dimanche du 18 mars 2018. Au nom de tout le monde, merci et au revoir.
Ciao tout le monde.
Ciao.